BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Aujourd'hui au menu, le serial redresseur d'entreprise Arnaud Marion. Il va nous dire si on peut anticiper tous les risques pour la suite et comment on fait pour bien dormir quand on est chef d'entreprise en 2020. La qualité de l'air au bureau, c'est un vrai sujet. L'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Comment on fait pour l'améliorer? C'est la question qu'on va poser à Sandrine Correa, elle est la directrice du pôle environnement, santé et sécurité chez SGS. Et puis on va parler cheval. Figurez-vous que le cheval peut servir de miroir entre vous et vos émotions, même si vous n'êtes pas branché équitation. Vous allez voir, c'est intéressant. On va en parler avec Arnaud Camus, il a lancé une académie d'équicoaching. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Arnaud Marion, expert en gestion de crise. Bonjour, fondateur de Marion & Partners, de l'Institut des hautes études en gestion de crise. C'est une école que vous avez créée, vous allez nous en parler. Vous êtes serial redresseur d'entreprise, de Doux, de Vélib, des pianos Playel. On pourrait faire la liste, une longue liste à chaque fois que vous venez. Est-ce que le marché de la restructuration, dont vous êtes un des professionnels, est en plein boom? Est-ce qu'on vous appelle non-stop? Est-ce que c'est une explosion?
Oui, alors c'est contrasté selon le type de professionnel. Paradoxalement, ceux qui font du judiciaire ont un peu moins de travail aujourd'hui, les administrateurs judiciaires ou autres, parce qu'il y a 40% de faillites en moins. Donc c'est un peu le paradoxe de cette crise. Et puis tous ceux qui accompagnent des entreprises dans la prévention ou qui font de la gestion de la transformation comme moi ou qui vont aider des entreprises dans des passes difficiles, comme je fais également, ceux-là, oui, ils sont effectivement débordés de travail.
Mais là, on est encore dans une période où l'État accompagne énormément. Vous craignez qu'une fois qu'on va enlever les branchements, c'est justement les administrateurs judiciaires et tout ça voient leur offre exploser?
Non, mais c'est
la
le
demande,
plus grand
plutôt.
Risque, parce que là on est dans une situation d'exception. D'abord, on a enchaîné, je dirais, les mesures d'exception, le PGE, le fait que l'URSSAF n'assigne plus aujourd'hui les entreprises en justice, le fait qu'on peut décaler ses charges sociales, donc tout ça a permis, alors, de sauver énormément d'entreprises, de sauver la situation du pays, il faut le reconnaître, mais les mesures ont été tellement larges et tellement globales qu'elles ont eu cet effet, c'est de diminuer fortement le nombre de faillites par rapport à une année normale où on est généralement autour de 50 000 faillites. Donc effectivement, le jour où tout ça va s'arrêter, et la question c'est comment ça va s'arrêter, est-ce que ça va s'arrêter petit à petit ou du jour au lendemain, on voit bien que là, il risque, et les économistes se prononcent là-dessus, il risque d'y avoir effectivement la conjonction de à la fois ces entreprises qui ont maintenant trop de dettes avec le PGE, ces entreprises qui ont eu de toute façon une baisse d'activité, et puis ces entreprises qui ont souffert de la situation. Donc là, le risque pour elles, effectivement, c'est d'être défaillantes.
Vous avez créé une école, l'Institut des hautes études en gestion de crise. Qui se tourne vers vous? C'est des managers qui sont stressés, ce sont des chefs d'entreprise, ce ne sont pas des gens qui ont déjà déposé le bilan, ils sont en situation de stress, c'est qui?
Oui, alors l'école, elle est faite pour former les dirigeants et les managers à la gestion des crises et des transformations. Parce que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Partout où je passe les mêmes erreurs » parce que j'ai constaté que systématiquement on voyait les mêmes choses se répéter. Donc j'ai voulu vulgariser ça, c'est ce que j'ai sorti au mois de septembre. Et il y a un an à peu près, en ayant quitté Vélib, j'ai eu l'idée de fonder cette école. Alors j'avais prévu de la créer là pour la rentrée du mois de septembre 2020. Entre-temps, il y a eu les événements qu'on connaît du Covid et j'ai décidé que cette école serait digitale. Et en fait, je forme deux types d'organisations. Je forme des comités de direction, je les assiste. Alors, pas forcément d'entreprises qui vont mal et souvent d'ailleurs d'entreprises qui vont bien, mais qui se posent les bonnes questions et au bon moment et en anticipation, mais qui ont besoin un petit peu d'être guidées, notamment sur comment vont évoluer les organisations. Et puis sinon, il y a effectivement la formation des dirigeants à travers des cycles. Là, j'en termine un demain, vous voyez, une session complète. Et là, ces chefs d'entreprise ou ces avocats ou ces chasseurs de tête, ils viennent chercher de l'inspiration ou de la méthode. Ils viennent essayer de retrouver des points de repère et se disent, j'ai conscience que, mais je ne sais pas comment faire.
Mais la solution, c'est de se demander ce qui peut mal aller quand ça va bien?
Oui, toujours.
Anticipation.
Et il vaut mieux prévoir le pire et qu'il ne se produise pas plutôt que de considérer que tout ira bien. Aujourd'hui, vous savez, la difficulté du chef d'entreprise, c'est qu'il doit se projeter dans un monde qui ne se prévoit plus. Donc c'est quand même très compliqué et ces scénarios à lui de gestion, ces business plans comme on dit, eh bien il est obligé de créer des sensibilités, des stress tests. Alors les banques par exemple avaient l'habitude de faire ça. Maintenant les chefs d'entreprise doivent le faire et se dire ah, et si ça va mal, bon, on est en train de voir qu'on est en train de parler dans, par exemple en Italie, en Allemagne, d'une éventuelle troisième vague et qu'on reconfine. On voit que l'Angleterre a reconfiné partiellement hier. On ne sait pas vraiment comment l'année 2021 va se dérouler.
Mais justement, on ne connaît pas ces risques. L'armée vient de créer Red Team, qui est une sorte de cellules, de scénaristes qui travaillent à des possibles scénarios de risque. Il faut tellement aller loin qu'ils ont fait appel à des scénaristes de science-fiction. Est-ce qu'il faudrait dans chaque entreprise avoir des gens spécialistes dans la gestion des risques qui anticipent le pire, même l'improbable, et qui font des scénarios possibles?
Oui, alors c'est...
Est-ce ça, que c'est le seul moyen de dormir tranquille, quoi?
Alors ça, c'est tout le concept de Nassim Nicolas Taleb sur l'antifragilité, en fait. C'est-à-dire de se dire, il faut rationaliser le fait qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Bon, une fois qu'on a compris ça, on est beaucoup moins fragile. Bon, ça, c'est la première étape intellectuelle. En fait, oui, bien évidemment, tous ces comportements, ils sont inspirés de l'armée, ils sont inspirés de tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on peut imaginer, même d'improbable? Et on se dit, bah voilà, il y a un troisième confinement, les magasins referment, ou il se passe ceci, ou il se passe cela. Ce qui compte, c'est quoi? C'est de l'avoir prévu et d'avoir essayé d'évaluer surtout les impacts. Alors là, vous savez, on est dans une situation d'exception, on l'a dit au début. C'est-à-dire que à chaque mesure annoncée, administrative, on vous annonce une mesure financière. Le lendemain, vous avez le Premier ministre et le ministre de l'économie qui disent voilà combien on vous donne. On voit que ça change aussi. On voit qu'on vient de plus en plus cibler. Mais oui, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, ils ne peuvent pas se dire que l'année 2021 se déroulera normalement et reprendra normalement. On voit déjà que des secteurs complets, comme les restaurants, tout ce qui tourne autour de l'hôtellerie, de l'entertainment...
Mais est-ce que ça les excite au sens positif du terme? C'est-à-dire qu'en fait, le manager ou le chef d'entreprise, parfois, il se révèle dans la crise, il se révèle face à une situation à risque. Est-ce que finalement, ce n'est pas plus excitant d'être comme ça face à un tas d'incertitudes?
Il y a une adrénaline et une énergie qui est absolument incroyable dans toutes les crises que moi j'ai rencontrées, et même les pires, hein, les pires dépôts de bilan que j'ai vus quand j'étais chez Doux ou autre. Et là, tout d'un coup, la créativité revient à l'honneur et tout d'un coup, tout le monde se mobilise. Finalement, les chefs d'entreprise, aujourd'hui, ceux qui prennent la parole, ils disent « mais laissez-nous travailler, occupez-vous de rendre les gens responsables, mais laissez-nous travailler ». D'ailleurs, regardez, ce deuxième confinement n'a pas du tout été un bis repetita du premier. Le premier, on nous a dit « arrêtez de travailler, restez chez vous ». Le deuxième, les gens ont essayé, les salariés, les collaborateurs, les patrons ont tous dit « non, non, on ferme pas, on continue à travailler, sauf les secteurs fermés administrativement ». Donc beaucoup, aujourd'hui, sont impatients et se disent « mais pourquoi vous ne nous laissez pas ouvrir? Pourquoi vous ne nous laissez pas travailler ?» En fait, les chefs d'entreprise, vous savez, ils n'aiment pas être assistés et ils n'aiment pas recevoir de la subvention pour ne rien faire. À la limite, ils préfèrent être aidés pour pouvoir travailler qu'aidés pour ne pas travailler.
Vous êtes un spécialiste de l'entreprise qui va mal. Il y a des entreprises dont on pense qu'elles vont toujours aller bien. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur le cas de Danone, cas marquant. Emmanuel Faber a annoncé un plan social assez conséquent, notamment pour les cadres. Danone, c'est une des entreprises à mission. On a vu Emmanuel Faber parler partout de la mission d'entreprise de Danone. Est-ce qu'on a le droit, quand on est une entreprise à mission, de licencier?
Oui, bien sûr, mais on n'est pas du tout sur le même débat et on a voulu, je dirais, faire un mauvais procès à Emmanuel Faber en considérant que tout d'un coup, le fait d'être entreprise à mission lui donnait des obligations qu'il ne devrait pas avoir. Le vrai sujet d'Emmanuel Faber, alors peut-être que c'est parce que il a tellement confondu son projet personnel et le projet de Danone que certains lui reprochent aujourd'hui en lui disant taratata, c'est pas si bien, mais d'un autre côté, pérenniser son entreprise, c'est lui permettre justement de réussir sa mission. Le vrai sujet, pour moi, il n'est pas là. Le vrai sujet, il est au niveau des actionnaires de ce type d'entreprise à mission qui doivent considérer qu'elles doivent attendre moins de rentabilité du capital investi que les autres sociétés similaires qui ne seraient pas entreprises à mission. Donc qu'aujourd'hui, Emmanuel Faber, il a la pression de ses actionnaires qui lui disent « Soyez aussi performants que les autres ». Et c'est ça qui est antinomique, en fait. Donc, du coup, et pourtant, 99,7% des actionnaires ont voté pour le fait que Danone soit entreprise à mission. Mais ils n'ont pas vu que ça leur donnait à eux, actionnaires, des obligations de dire « Si on veut faire différemment, on doit attendre moins de rentabilité ». Donc, c'est peut-être un mauvais procès, je pense.
C'est un des rares cas où on avait l'impression que c'était pain sur le bec, quoi. Ça fait des années que tu parles de la mission et tu vois, il faut être en fait rentable avant tout.
Oui, parce que c'était ce côté un peu biblique de cette mission qu'il s'était donnée et on lui reproche finalement une espèce de communication personnelle sur le sujet. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter l'entreprise à mission, ni Emmanuel Faber. Ces bonnes intentions, vous savez très bien qu'avec les nouvelles générations qui arrivent, les nouvelles générations Z, avec les grands enjeux contemporains du climat, de biodiversité, ce sont des sujets qui sont essentiels. Et du jour au lendemain, vous le verrez, les investisseurs changeront et considéreront que l'ISR, l'investissement socialement responsable, c'est ce qui doit prévaloir.
Son histoire n'est pas terminée.
Quoi. Non, loin de là. Peut-être que son histoire chez Danone se terminera, mais en tout cas, l'histoire des entreprises à mission et de la raison d'être ne l'est pas et ne doit pas l'être.
Votre livre, c'est partout où je passe les mêmes erreurs. C'est toujours ça. Le cas, ça n'a pas changé.
Oui, ça n'a pas changé. Oui, bien sûr, parce que là, vous voyez, on entend souvent, c'est pas de ma faute et c'est conjoncturel. Mm. Donc, on l'a entendu avec la crise russe, avec les attentats de 2015, on l'a entendu avec les gilets jaunes, on l'a entendu avec les grèves de l'an dernier, on va l'entendre avec le Covid. Oui, alors c'est un petit gimmick que j'ai voulu donner. C'était pas pour incriminer les chefs d'entreprise. C'est juste que le déni. Aide à supporter une situation qui est terrible pour un chef d'entreprise, qui est celle éventuellement d'échouer. Donc le titre, c'était pour réveiller les chefs.
Il faut sortir de ce déni.
Oui. Et puis, il faut accepter d'écouter les autres. Et puis, il faut accepter de se dire que ce n'est pas forcément conjoncturel. Le conjoncturel accélère, mais c'est souvent une faiblesse structurelle. Regardez les entreprises qui sont tombées dans la grande distribution et dans le retail, comme on dit. Mmh. C'était des entreprises qui étaient déjà affaiblies.
Les accélérateur, entreprises... le Covid, plutôt oui, voilà. Qu'origine du mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arnaud Marion, d'être venu nous voir. À très bientôt, on fera le bilan de l'année 2021 ensemble
dans
pour voir
an.
S'il
n'y
a plus les mêmes erreurs. Ce serait quand même une
Exactement,
bonne chose.
Exactement, ce serait une bonne
Merci
chose.
Merci beaucoup, on va Merci parler de qualité de l'air dans les bureaux dans un instant.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Savez-vous que l'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur? L'air dans nos bureaux, c'est devenu un vrai sujet, un sujet de qualité de vie au travail pour l'ensemble des DRH et des managers. On va en parler avec Sandrine Correa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du pôle environnement, santé et sécurité chez SGS. Comment ça se fait que cet air intérieur est si problématique?
En fait, vous avez à l'intérieur de vos bureaux des moquettes, des tables avec des vernis, des colles. Donc tout ça, ça émane des substances qui sont organiques et volatiles et du coup qui se concentrent à l'intérieur de vos bureaux.
Et pourtant, ouais. On parle de la qualité de l'air extérieur sans cesse, on mesure, mais ça ne nous viendrait pas à l'idée de mesurer au bureau la qualité de l'air.
Alors, on y arrive de plus en plus, et ça commençait en fait par les écoles, les établissements publics dans lesquels on regarde les formaldéhydes, les benzènes dans les écoles, parce que c'est un problème pour les enfants. Et maintenant, on arrive effectivement à regarder ça dans le milieu du travail, mais aussi chez nous. Parce qu'on a exactement les mêmes matériaux, les mêmes moquettes et les mêmes peintures chez nous qui émanent des substances.
Parce qu'il y a un sujet dans les bureaux, parce qu'on se dit on ne travaille pas à l'usine, on n'est pas dans une usine de bois où il y aurait des copeaux. Au bureau, on peut aussi être victime d'une pollution de l'air.
Tout à fait. Donc vous avez, les imprimantes, ça dégage de la poussière. Et donc des particules fines, et des particules fines que vous allez respirer.
Donc vous avez créé chez SGS un boîtier qui s'appelle AirSense, que vous pouvez mettre au bureau, et qui vous dit quoi?
Alors cet appareil nous permet de monitorer, de suivre en temps réel 5 paramètres, donc la température de votre bureau, l'humidité, parce que bien souvent l'humidité fait preuve de moisissure et donc est un allergène pour les personnes, le CO2, qui est un indicateur, qui est très souvent lié en fait à la température, les particules fines et les COV. Les COV, donc, c'est tout ce qui va être organique et volatile, qui va émaner des matériaux.
Vous l'avez mis en place dans combien d'entreprises aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on l'a mis en place dans le monde parce qu'en fait, c'est un produit qu'on vend au niveau mondial dans une vingtaine de pays. Voilà. Et celui où ça marche le plus en ce moment, c'est les États-Unis. Et vient la France en deuxième position.
Mais alors, il y a combien de cas d'entreprise où c'est vraiment problématique? C'est-à-dire que ça fait quoi? Ça bip? Ça devient tout rouge?
Alors, en fait, ça mesure tous les jours. Ouais. Il y a en fait un pas, un compteur qui, toutes les minutes, va mesurer la température, ces cinq paramètres-là. Mm-hmm. Et donc, ça va nous permettre de voir sur une activité d'une semaine s'il y a des pics. Et en cas de pic, quelle action on doit entreprendre?
Et qu'est-ce qu'on fait? On sort du bureau? On part? tout le monde s'en va?
Non. En fait, ce qui se passe, c'est que quand la température augmente et le CO2 augmente, on va regarder si effectivement le système de ventilation est conforme ou auquel cas il faudrait l'accélérer. Ou si vous n'avez pas de VMC, ouvrir la fenêtre pour renouveler l'air.
C'est donc, il faut que les informations soient reliées à quelqu'un qui sait les
exactement
analyser.
Exactement.
Qui sait. Donc, alors, c'est qui? C'est le directeur des services généraux?
Non, on l'établit dès le départ, où on se dit, la norme, les valeurs guides d'exposition dans le milieu du travail, en CO2, c'est par exemple 400 mg par litre, c'est ce qui est toléré. Donc, on va se mettre une alerte. Dès que ça dépasse ce seuil-là, en fait, ça envoie au responsable de l'établissement, sur son smartphone, une alerte en disant, écoutez, vous avez eu un déplacement de CO2, qu'est-ce qu'on fait?
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous le conseillez, le chef
tout
d'entreprise? Vous lui dites de faire quoi?
Dans ces cas-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut passer sur le système de ventilation. C'est-à-dire qu'il faut soit accélérer la ventilation, de manière à renouveler l'air, et faire appel souvent à la personne de maintenance qui va regarder si le filtre est encore conforme ou pas. Regardez ce qui s'est passé.
Le sujet ventilation avec le coronavirus, c'est devenu un vrai sujet de vie de bureau très important. Il y a des entreprises, je me souviens de la Société Générale, qui a dû vraiment prouver à ses salariés, regardez notre système de ventilation, il fonctionne, il a été nettoyé. Ça va devenir une demande des salariés, comment vous ventilez vos bureaux, est-ce que l'air est correct?
Tout à fait, c'est déjà en fait une demande de nos salariés. On l'a installé au siège et dans un de nos laboratoires, parce qu'en fait, toutes les valeurs qui sont dans ces senseurs-là ont été testés dans nos laboratoires qui sont COFRAC. Donc ce n'est pas un gadget qui donnerait des valeurs.
Ça va devenir une norme.
Tout à fait, ça va devenir une norme. Et les salariés, les jeunes qui arrivent sur dans le milieu du travail sont très demandeurs de la qualité de l'air. Donc ça va aussi sur notre système de responsabilité des achats. On va acheter des matériaux qui, dedans, n'ont pas de matière organique, par exemple. Mais aussi, vous savez, quand vous faites le ménage, il y a beaucoup, beaucoup de polluants qui arrivent avec les sprays qu'on utilise pour faire le ménage.
Donc c'est
demain,
tout ça
qu'il faut effectivement retirer pour essayer d'avoir un air le plus sain possible.
Donc demain, ça veut dire que on pourra peut-être pas dans une annonce, mais mettre en avant en disant nos bureaux sont, sont AirSense. On a le système AirSense qui vous garantit un air correct,
propre. Tout à fait. Tout au long de vos 8 heures de travail ou votre semaine. Tout à fait.
Mais après, faut l'installer chez soi pour le télétravail.
Exactement.
Et peut-être que l'entreprise pourra vous le financer pour chez vous. Je lance une piste.
C'est noté. J'ai pris le point.
Je lance. Allez, merci beaucoup, Sandrine Correa, d'être venue nous voir, directrice du pôle environnement, santé et sécurité chez SGS. Vous faites du cheval?
Non.
Eh bien écoutez, c'est parfait. Vous êtes tout à fait un client pour parler équi-coaching. Vous savez que le cheval peut être un miroir de vous-même. On va découvrir ça dans un instant.
Merci à vous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business case.
Et on va parler de l'évolution du coaching. On est avec Arnaud Camus, fondateur de l'Académie d'Equi-Coaching. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est l'Equi-Coaching?
Alors, c'est une formation professionnelle, aujourd'hui qui est employée par un grand nombre d'entreprises sur les soft skills et le leadership et le management.
Donc, on vient chez vous comme un team building classique. On fait une séance, on va apprendre des choses sur le management, sur soi-même, sur ses propres compétences. Mais qu'est-ce que le cheval vient faire là-dedans?
Alors, c'est une formation en team building. C'est notre concept qui est assez original et qui a permis de désacraliser la formation en salle contraignante et autres. Nos formations sont au plein air, dans des sites magnifiques, souvent uniques et historiques. Et ce sont des formations qui vous permettent d'être confronté au cheval, qui a la faculté de pouvoir, en quelques secondes, vous analyser et savoir à qui il a affaire.
Mais il ne parle pas, ce cheval, il ne va pas me faire un bilan de compétences.
Absolument, il ne parle pas, mais nous avons la chance, avec mes partenaires formateurs avec qui j'ai développé cette académie, d'être éleveur de chevaux depuis 30 ans. Et en 30 ans, nous avons analysé les chevaux dans les prairies, à l'état naturel, pour les décoder. Et aujourd'hui, on a 54 points de lecture du cheval qui s'avère tout à fait juste à chaque séance.
Mais tous les chevaux peuvent faire de l'équicoaching ou ils sont spécifiquement choisis par vous pour cet exercice?
Alors, avec mes partenaires, nous élevons à peu près 50 de chevaux qui sont des chevaux pour l'équicoaching choisis sur le fait qu'ils sont gentils, c'est-à-dire qu'ils bottent pas, ils mordent pas, ils sont proches de l'humain, s'intéressent à l'humain, et pour certains, on fait de la compétition à très haut niveau.
D'accord. Donc vous dites proche de l'humain, ça peut s'adresser à tout le monde, ceux qui ne connaissent pas les chevaux comme ceux qui les connaissent. Parce que moi, vous me diriez, tiens, on va aller faire un petit team building, tu vas aller faire du petit saut d'obstacle avec des chevaux. Je vous le dis tout de suite, je ne viens pas.
Alors, vous auriez raison, c'est pas ce qu'on va vous proposer. Nous, on propose des séances à pied, on monte jamais sur les chevaux, on est à pied, et c'est une confrontation en solo ou en équipe avec le cheval.
Donc à pied, donc je me promène avec lui, je lui parle, je...
Exactement. Le premier exercice, on va vous mettre en liberté, seul dans le manège, avec le cheval pendant 3 minutes. Et on va vous demander de faire évoluer le cheval au pas, au trot, au galop, en fonction de vos compétences techniques ou vous le sentez ou vous le sentez pas, avec vos bras, votre jambe, votre voix et autres. Au bout de 3 minutes, le cheval va communiquer avec vous. On récupère le cheval, on vous demande votre ressenti. Et après votre analyse courte, on va, nous, coach, formateur, vous faire le décodage du cheval. Laurence Flichy, ma partenaire psychologue, va vous faire une première partie sur la psychologie, votre psychologie que le cheval a perçue. Et moi, je fais la suite sur le décryptage de votre management en société.
Donc, c'est le cheval qui vous analyse?
Absolument. Le cheval émet des codes sur vous, vous perçoit. Dans la nature, il est né herbivore et il s'est façonné depuis quelques millions d'années des capteurs sensitifs excessivement puissants pour analyser le danger, la bienveillance ou la malveillance. Et en quelques secondes, il est capable de savoir à qui il a affaire.
Et quelle transcription dans le management, vous, après, vous en faites?
Alors, je vais prendre un exemple très grossier, celui qui est le plus flagrant. Quand un cheval se roule auprès de vous, dans le manège, quand vous êtes seul avec lui, c'est que vous êtes pour lui quelqu'un de confiance. Dans la nature, à l'état sauvage, s'il se roule devant un lion, il va se faire croquer. Donc il sait qu'avec le lion, il ne va pas se rouler, il va plutôt partir à l'autre bout du champ. Donc le fait de pouvoir voir un cheval à votre pied qui se roule, c'est que vous êtes quelqu'un dans l'entreprise.
Mais ça arrive ça, que le cheval se roule au bout de 3 minutes?
Nous avons formé hier une vingtaine de stagiaires, et sur les 20 miroirs que nous avons réalisés, il y a 3 stagiaires qui ont fait rouler le cheval devant eux.
C'est incroyable ça.
Oui.
Donc en quelques minutes, il ressent tout ça. C'est mieux qu'un robot. Enfin, je veux dire, c'est mieux qu'un algorithme.
C'est souvent, on est pris en alternance de tous les process comme Betty et autres. Aujourd'hui, le cheval est un révélateur total de votre comportement. Vous avez aujourd'hui les chevaux, ils perçoivent vos battements cardiaques à plus de 20 mètres.
Ah oui.
Donc l'analyse est excessivement rapide et fine. C'est un jeu d'observation pour nous, hein. C'est 30 ans d'observation.
Vos clients, ce sont des entreprises qui amènent l'ensemble de leurs collaborateurs, qui amènent leurs managers, c'est qui?
Alors nos clients sont aujourd'hui aussi bien des entreprises du CAC 40, avec des patrons du CAC 40 qui viennent avec leur CODIR ou COMEX. Nous avons aussi des sociétés, des start-up, des ETI, des structures de 20-30 personnes qui viennent avec le staff en entier. Donc il n'y a pas toute entreprise qui veut se faire former peut venir dans notre structure passer une ou deux journées.
C'est pas que pour les managers, ça peut être pour l'ensemble des collaborateurs.
Non, on a formé, pour une grande entreprise qui est la marque Vivendi, nous avons formé des assistantes pendant 2 ans. Nous avons formé des groupes de 10-12 assistantes qui seront venues sur 18 mois, 3 fois chacune, se former sur les soft skills, la confiance en soi, le développement personnel, la gestion du stress, la communication.
Merci beaucoup Arnaud Camus d'être venu nous raconter tout ça. Vous m'avez presque convaincu de venir. Fondateur de l'Académie d'Equicoaching, vous avez écrit Equicoaching, l'intelligence émotionnelle au cœur de l'entreprise. C'est chez Actes Sud. On arrive au bout de cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.